Merci Laurent, c'est bon. Je ne veux pas nous mettre dans le sombre et je ne voudrais pas que les gens y croient qu'on est en vase clos. On est une église ouverte. Ce matin, on va examiner quelqu'un qu'on n'a pas tellement l'habitude de regarder. Parce que souvent, quand on parle de ce personnage d'une histoire, on se dit, mais finalement, peut-être, moi je suis ce monsieur. Et on découvre que souvent, quand on ne regarde pas notre vie, on peut devenir des gens un petit peu, je dirais, infranchissables. Des gens bien, des gens justes, des gens qui n'ont plus grand-chose à apprendre et qui ont du mal à se réjouir un petit peu de toutes les fêtes qui se passent. Alors je veux parler de cette histoire que nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Une histoire bien connue, puisque dans ce chapitre 15, il y a trois paraboles, et notamment une bien connue qui s'appelle celle du fils prodigue. Et on passe du temps et du temps à raconter l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas ? De ce garçon qui est parti avec l'argent, l'héritage, et qui l'a dilapidé, et puis qui s'est retrouvé à manger la nourriture des cochons, et puis qui finalement est revenu vers son père. N'est-ce pas ? Mais on passe pas beaucoup de temps à regarder ce deuxième personnage, qui est le frère. Le frère aîné, celui qui est juste, celui qui n'a pas quitté la maison, celui qui a continué à servir, celui qui se dit, après tout, le frère, là, il aurait mieux fait de rester avec les cochons, hein. Et on se dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre avec l'histoire du fils ? Alors voilà l'image que j'aimerais vous présenter. Qu'est-ce que vous y voyez ? Je vous pose la question. Alors peut-être vous, qui êtes là, vous avez du mal à voir, hein ? Mais ceux qui sont proches, là, vous voyez quoi, là ? Donc en haut, en bas, vous voyez quoi ? Des boules de golf, voilà, peut-être. Et puis quoi ? Vous voyez de l'herbe, semble-t-il plastifiée, des branches de sapin un peu colorées. Et vous dites, ça y est, Jean-Claude, il fait dans l'art moderne. C'est joli. Mais il n'y a pas que ça, mes amis. Je vais revenir pour le micro. Il y a quelque chose qui est dedans. Voilà. Et qui se trouve, en fait, ici. Et c'est une boule ouverte. Mes amis, dans notre vie chrétienne, quelque chose qu'on voit très bien, c'est là, l'extérieur. Et l'extérieur, ça peut être joli ou ça peut être quelconque. Mais le dedans, pour le voir, il faut scruter un peu. Et notre vie chrétienne, on peut donner cette impression que tout va bien. On peut donner cette impression que nous sommes des gens justes et bien. Alors que, à l'intérieur, quelque chose ne va plus. Qu'on est devenu amer. Qu'on est devenu sans cœur. Qu'on est devenu froid. Et on va regarder au travers de l'histoire de ce frère. Que oui, il était juste. Oui, il était dans la propriété de son père. Mais qu'il lui manquait quelque chose. Le fils aîné. Or, le fils aîné était au champ, et comme il revenait et qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses, et ayant appelé un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Il lui dit, « Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. » Et son père, étant sorti, le pria, mais lui, répondant, dit à son père, « Voici, tant d'années que je te sers, jamais je n'ai transgressé ton commandement. » Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire une bonne chère avec mes amis, et quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. » Et il lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi, mais il fallait faire bonne chère et se réjouir. Celui-ci, ton frère, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » L'histoire se situe avec un paradoxe. Un paradoxe, c'est une opposition. Jésus est à table, lors de ses paraboles, avec d'un côté des pécheurs et des publicains, des gens que les religieux ne voulaient pas voir. Ils critiquaient Jésus pour prendre du temps avec eux. Ils sont d'un côté. Luc, au moyen de trois paraboles, ça dit que le Seigneur s'adresse à ces publicains et à ces pécheurs venus l'entendre. Ils réalisent leur état et sont prêts à écouter les paroles de grâce de Jésus. Ils ne peuvent dépendre que de la grâce, parce qu'ils sont pécheurs, non inclus, ignorants, sans nation. Et puis de l'autre côté, il y a les pharisiens, les religieux, les scribes, ceux qui sont bien, ceux qui ne sont pas touchés par le péché, ceux qui n'oseraient même pas lever les yeux. Des pharisiens, des scribes, orgueilleux, propres, justes, sont dans cette assistance. Et n'ont qu'un œil finalement de juge. Sans aucun doute, le fils aîné de la parole du fils prodigue les représente, n'est-ce pas ? Ainsi que les propres justes, ceux qui, petit à petit, ferment leur cœur, ne se réjouissent plus lorsqu'ils entendent des choses bien. « Ah oui, moi j'ai vécu ça, oui. Quand tu auras grandi, tu verras. » Le fils aîné ne comprend pas le cœur de son père. Le fils aîné est dans une position où il se dit, mais mon père a perdu la raison. Il offre quelque chose alors que ce fils, il l'appelle même plus son frère. Ce fils qui a péché, qui est parti de si loin, mais il n'y a rien à lui donner, il n'y a qu'à le mettre dehors. Il n'appartient plus à la famille. Mes amis, vous savez que quand on est le fils ou la fille de quelqu'un, on l'est, je dirais, à vie ou à mort. Et vous savez quoi ? Notre société est en train d'inventer, et ça se passe dans certains pays, le fait que des enfants peuvent porter plainte contre leurs parents pour se dégager du nom des parents, parce qu'ils les jugent indignes. Mes amis, des gens qui donnent la vie. Notre Père, notre Seigneur, nous a donné la vie. Et lorsque nous péchons, lorsque nous sommes au loin, nous sommes toujours les enfants de Dieu. Et le cœur de notre Père saigne. Il nous regarde en disant, « Mes enfants, revenez à moi. » Et le fils aîné, lui, il ne comprend pas. Il n'a jamais erré loin de la maison paternelle. Il n'a pas transgressé, du moins il l'affirme, le commandement de son père. C'est le verset 29 qu'il le dit. Il est vrai que le fils aîné n'avait jamais quitté son père, mais dans son cœur, il s'était beaucoup éloigné de lui. Sa prétention de n'avoir jamais désobéi à son père est sans fondement. Au moment même où le fils aîné s'exprime ainsi, il refuse de rentrer dans la maison. Je n'ai jamais péché, enfin jusqu'à ce moment, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant, et il y a un commencement à tout, non ! Ah ! Il est difficile de dire que nous ne péchons pas, n'est-ce pas? Que nous sommes tellement bien, tellement justes, c'est incapable. Je voudrais pécher que je pourrais même pas. Ouh. Faut jamais dire ça au diable, hein, que lui, il a des moyens à nous donner. Le fils aîné se croit inviolable. L'icône, la personne parfaite. On peut avoir cette attitude, frères et sœurs. Tellement froid, tellement distant, mais moi je suis juste, regarde. Un vrai chrétien, tu veux une image, mais tu l'as, regarde. Le Père dit, mon enfant, verset 31, tu es toujours avec moi. Cela ne permet pas d'affirmer qu'il était croyant, en règle avec Dieu. Au chapitre suivant, l'homme riche qui est en enfer dans le tourment est aussi appelé par Abraham mon enfant, pas mon fils. Et pourtant, à l'évidence, il ne s'agit pas de quelqu'un de sauvé, mais quelqu'un de descendant de la chair. On peut être tout proche de quelque chose. M'est arrivée une aventure il y a quelques années au Bénin. J'essayais de joindre quelqu'un de capital pour voir quelqu'un d'autre. Et je n'avais que son téléphone. Alors j'appelais en sans cesse. Je tombais sur la boîte vocale. Et le jour finalement où j'arrivais à Cotonou, où je devais voir l'autre personne, qui était en l'occurrence l'oncle de ma femme, j'ai dit, il faut que je réessaye d'avoir ce monsieur. Alors finalement, alors que j'étais arrivé au siège de la mission, je prends mon téléphone portable, j'appelle la France, je reviens. Donc France Télécom faisait des petites affaires sur mon dos. Et à un moment, je dis, bonjour monsieur, finalement je suis très content de vous avoir. Il me dit, ben moi aussi monsieur Relier. Et je dis, où êtes-vous? Il me dit, je suis à Cotonou. J'ai dit, ben ça tombe bien, moi aussi. Il me dit, je lui dis, vous êtes où? Il me dit, je suis à Quartier Jacques. J'ai dit, ben ça tombe bien, moi aussi. Et je lui dis, vous êtes où à Quartier Jacques? Au siège de la CIM. Et j'ai dit, ben moi aussi. Et en fait, il était de l'autre côté de la porte. Et on se parlait par téléphone portable. Mes amis, on peut être très très proche de quelqu'un, sans le réaliser. Mais on peut en être excessivement éloigné avec nos téléphones. On peut avoir ce sentiment d'être tellement proche de Dieu, de tout connaître sur lui. Et finalement, il y a une porte entre nous. Apocalypse chapitre 3 nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je dînerai avec lui. » Mes amis, on peut avoir ce sentiment très facilement, n'est-ce pas, comme le fils prodigue, comme le fils, le frère du fils, d'être dans la maison, de tout avoir. Mais finalement, il y a des portes qui se sont mises, des cloisons qui ont été élevées. Le Père ajoute, « Tout ce qui est à moi est à toi. » En effet, tout ce qui lui appartenait était à son fils. En plus, il était le fils aîné. Qu'il soit ou non croyant, toute la grâce de Dieu, tous ses dons sont à la portée de tout être humain. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont ses enfants. Quand on dit que Dieu a offert son corps pour tout être, oui, mais tout le monde ne l'a pas accepté. Jean chapitre 1 dit, « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » On n'est pas tous frères et sœurs, mes amis. Uniquement ceux qui ont accepté. Il y a un cadeau extraordinaire qui est offert au monde entier. Le monde entier n'en veut pas. Ah ! On peut être tout proche, on peut être devant la porte. On peut avoir entendu toutes les histoires du monde, on peut être père, enfant d'une famille chrétienne. Ça ne fait pas de nous des chrétiens. Ah. Toute la grâce de Dieu, tous ses dons sont à notre portée. Ils cherchent le bonheur du monde. Et pourtant, ils sont nombreux à se tenir volontairement éloignés comme le fils aîné. Ils ne sont pas touchés par sa grâce. Mes amis, quelle tristesse, non? Mais ma prière ce matin, mon fardeau, c'est que nous ne devenions pas des gens qui passent à côté de la grâce de Dieu. Des gens dont le cœur finalement se rendurcit, devient comme de la pierre. Le frère aîné, finalement, était devenu l'ennemi de son père. Le père parle de lui comme étant le frère du plus jeune qui est revenu de son égarement au verset 32. Mais cela ne permet pas non plus d'affirmer que le grand était plus croyant que l'autre. Et surtout qu'il était en règle. Tout lui appartenait, il était dans la propriété, il était là. Mais finalement, en tant que frère aîné, il attendait que le père meure pour devenir le chef. Vous vous rappelez avec les disciples, quand Jésus annonce sa mort, certainement dans un silence difficile, une des premières conversations qui viendra entre les disciples, c'est « Mais alors dorénavant, qui sera le chef ?» Nous avons besoin d'examiner nos cœurs, n'est-ce pas ? L'aîné de deux fils dans cette parabole représente le pécheur, l'incrédule. Ainsi qu'on le voit souvent dans la parole, la plupart du temps, il n'est pas seulement incrédule, mais de plus, il s'oppose ouvertement. Rentre ? Non. Viens ? Ça, je ne le ferai pas. On se souvient de Caïn et Abel, d'Ismaël et d'Isaac, d'Ésaü et de Jacob, n'est-ce pas ? Des couples de frères qui se sont fait la guerre. Ils haïssaient son frère, Abel, et il l'a tué. Ismaël persécutait son plus jeune frère. Ésaü méprisait son droit d'aînesse. Le fait d'être des aînés dans la foi, des gens qui devraient être en fait des modèles, des gens qui montrent, des gens qui conseillent, des gens qui entourent. Est-ce que ça fait de nous des héros? Des gens froids qui n'écoutent pas, qui ne se réjouissent pas, qui n'ont plus rien à prendre? Nous avons besoin, si nous voulons appliquer ce que Dieu nous demande, c'est de nous approcher de notre Père, de laisser nos cœurs. Le fils aîné se met en colère quand il apprend que son frère rebelle vient d'être accueilli avec joie dans la maison de leur père. Est-il possible qu'un croyant qui jouit d'une réelle communion avec Dieu puisse se mettre en colère lorsqu'un pécheur se repent? Est-ce qu'il y a des gens dans notre entourage où on se dit « celui-là, chrétien, jamais ». La petite église de Rion, le jour où elle a vu rentrer deux piliers de comptoir. Des piliers de comptoir, c'est des gens qui passaient plus leur vie au comptoir qu'ailleurs, dans les cafés, qui en partaient souvent en zigzagant. Lorsqu'elle a vu rentrer ces deux jeunes dans leur église, elle s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on nous a fait ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher là ? Messieurs, il n'y a pas d'alcool ici. C'est pas un bistrot. » Et les jeunes de répondre « Mais nous ne sommes pas venus pour boire. Nous sommes venus parce que nous avons rencontré Jésus-Christ. » On peut devenir froid en étant chrétien, insensible, au-dessus de toute chose. Oui, mais enfin, il va falloir qu'il fasse ses preuves, le petit jeune. Oh, il est venu là, c'est un loup qui est rentré dans l'église. Il va falloir s'en méfier. Jaloux, il ne reconnaît pas son état de péché. Nous comprenons que sans avoir quitté la maison, le fils aîné est sans doute plus éloigné encore que son frère. En tout cas, celui-ci tombait ouvertement dans le péché et maintenant, la Bible dit, revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Ça devait être un moment de joie extraordinaire. On a des amis qui sont sortis du chemin, n'est-ce pas ? Des gens qui étaient tellement prêts qu'on se disait, ah, ça y est, et puis... Est-ce qu'on attend ce jour où finalement ils vont trouver Jésus-Christ? Où finalement ils vont revenir à la maison? Ou est-ce que finalement on dit « c'est fichu » L'aîné semble n'avoir aucune idée de son propre péché, de ses manquements. Il dit « jamais », vous savez le mot « à jamais dire ». Jamais. Il ne faut jamais dire « jamais ». Je n'ai transgressé ton commandement. Or, nous avons tous maintes fois, n'est-ce pas ? Qui n'a jamais péché ? Qu'il lève la main. Pas la mienne, en tout cas. Vous vous rappelez Jésus avec la femme adultère ? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et pourtant, des pierres, ils en avaient. Hein ? Elles étaient à portée. Supposons un instant que ce qu'il dit soit exact. Si un fils parle ainsi du commandement de son père, il montre qu'il ignore les privilèges, les droits de l'amour, la grâce, qui n'est pas simplement cette faveur imméritée, mais qui est le cadeau de Dieu pour tout pécheur et pour nous. Il ne mesure pas la part qui est la sienne, celle de vivre dans la maison de son père. Il déclare « Voici tant d'années que je te sers !» L'apôtre Paul, sur la fin de sa vie, a à cœur les églises qui sont nées au fur et à mesure de son ministère. Et il écrit à son enfant dans la foi, Timothée. Il dit « Oh, j'aimerais venir te voir, j'aimerais tellement travailler avec toi, j'aimerais tellement voir comment les églises se développent. Mais si je tarde, voilà les commandements que je te donne pour que vous puissiez bien vivre dans la maison de Dieu. » Et finalement, le frère a oublié tout ça. Il a oublié que s'il était là, c'est parce que son père le laissait faire. Que finalement, c'était une grâce qu'il disposait de tellement de choses. Son langage révèle un esprit légal, qui n'est plus un esprit d'amour, un esprit de fils. Dieu ne nous doit rien, mes amis. Nous avions une dette et Jésus l'a payée. Si nous pouvons nous tenir dans sa présence, ce n'est pas à cause de nous. C'est grâce à lui. Et on a besoin de se rappeler de temps en temps. Mais si je peux servir Dieu, si je peux parler de lui, si je peux avoir une vie transformée, ce n'est pas grâce à moi. Mais c'est grâce à lui. Alors je peux être à l'écoute des autres, n'est-ce pas ? Ne pas les juger, mais prier. Le monde les aspire, les attire, mais Jésus est plus grand. Notre Dieu est plus grand, mais il n'a pas besoin de juges sur la terre. Il a besoin de pierres, d'outils qui vont se laisser modeler, qui vont reconnaître qu'eux aussi, ils ont besoin de la grâce de Dieu pour avancer. Pas à pas, jour après jour, force après force. Les amis qui traversent les cancers ont tellement de peine à traverser ces choses. Parce que les médicaments, parce que la maladie, parce que ces choses-là, finalement, essayent de prendre les forces sur nous. Mais Dieu leur donne la victoire. Mais ça demande des efforts, de croire. Seigneur, je m'accroche. Moi, j'aime beaucoup ce psaume 23, « Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bouclier me rassure. » Tu dresses une table pour manger, mes amis. Une table où je peux m'asseoir, où je peux être en communion. Il y avait la fête d'un côté, un frère qui exposait de l'autre côté. Le père exige-t-il de la part de ses enfants un labeur incessant ? Le fils aîné montre une ignorance complète des caractères de Dieu. Amour, on l'a chanté ce matin. Tout en toi est lumière et bonté. Beaucoup comme lui semblent penser que le christianisme consiste avant tout à travailler pour obtenir, si possible, la faveur divine. Mais la parole de Dieu montre le contraire, mes amis. Que Dieu s'est préservé le rôle de donateur. En effet, sans contredit, c'est le moindre qui est béni par le plus excellent. Hébreux chapitre 7, verset 7. C'est notre place. Nous sommes les bénéficiaires d'un généreux donateur. de quelqu'un qui nous a donné sans compter, sans retour, alors que nous étions encore pécheurs. Certainement le fils prodigue, son frère en tout cas n'avait pas encore lu le Nouveau Testament qui n'était pas encore écrit. Notre place, c'est notre place, et le Seigneur s'est proposé de verser sur nous toutes les richesses de sa gloire. Ça ne fait pas de nous des juges. Ça ne fait pas de nous des êtres froids, amers, rancuniers, méchants, mais des gens qui se réjouissent ou qui veulent se réjouir. Quelle différence y a-t-il finalement entre son état actuel et celui de son frère dans le passé? Finalement, alors que ce frère devrait être avec son père, accueillir son frère dans la joie, les larmes aux yeux. Ils discutent le bout de gras, tu devrais me donner un agneau à moi aussi pour que j'aille faire la foire avec mes copains. Peu de choses séparent l'un et l'autre. L'un et l'autre ont tourné le dos à leur père et à la maison. Vivant dans la débauche, le fils prodigue n'avait eu que des faux amis. Son frère a probablement trouvé aussi des amis. J'aime pas parler de moi, mais j'étais le chauffeur. J'étais un jeune privilégié qui avait une voiture, une vieille voiture, mais une voiture. Et vous savez, la chose extraordinaire, c'est que tant que la voiture roule, vous avez beaucoup d'amis. Quand la voiture ne roule plus, vos amis vous oublient. Où sont nos amis? Qu'est-ce qui les intéresse en nous? Que nous pouvons leur rendre service? Le fils aîné pensait que le père était là pour lui rendre service. Et qu'en fait, il avait obtenu les droits. Mais le père n'était pas mort. On se lie plus volontiers à ceux qui ont le même comportement, dit le psaume 119, verset 63. Dans de tels chemins, la communion avec le Père est impossible. Une simple proximité physique ne change pas. Un jour, j'ai posé la question, je veux faire de mal à personne, je me souviens plus si c'était ici ou pas, où j'ai demandé qu'est-ce qu'on appelait la communion fraternelle. Et quelqu'un a dit, être les uns à côté des autres. Alors j'ai dit, dans le R, on est drôlement en communion alors. C'est pas le fait d'être les uns à côté des autres. On peut être les uns à côté des autres et totalement séparés, mes amis. Même loin les uns des autres. N'est-ce pas? La proximité, c'est la proximité de cœur, de pensée. C'est Dieu qui nous donne des liens. Et vous avez vu, quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, dans les versets 11 à 16, où Dieu a donné des ministères, il parle qu'en fait, ce qui marche le mieux, c'est les articulations. Parce que les articulations font bouger tous les membres et permettent aux membres d'avancer. Le fils était proche physiquement, mais il était devenu loin. Rappelez-vous de Judas. Judas, il était assis très proche du Seigneur Jésus. Et pourtant, il était tellement loin. Secrètement, son cœur était très éloigné de lui. Plus que celui de beaucoup de pécheurs qui, reconnaissant leur véritable état de Dieu, devant Dieu, se tenaient à distance. Les pécheurs qui écoutent ont reconnu leur état et veulent apprendre. Les justes, en fait, ceux qui devraient pouvoir aider le Seigneur Jésus, sont ceux qui se plaignent, ceux qui disent finalement, mais pourquoi tu t'adresses à ces gens ? Le fils aîné se vante de la fidélité de son propre service. Il ne se soucie pas de l'amour et de la grâce. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ne considérez pas vos propres intérêts, mais ceux des autres. C'est intéressant comme quoi, d'un seul coup, le christianisme bascule. Comme quoi, d'un secours, on n'est plus ces êtres lugubres qui regardent les choses, mais qui s'approchent avec joie quand un pécheur se repent. J'ai marqué là, il est un type d'un pécheur religieux, de quelqu'un qui a l'apparence comme l'image tout à l'heure, mais à l'intérieur, qui pense obtenir par ses œuvres la faveur divine. Il est loin de recevoir simplement par la foi une bénédiction éternelle en comptant sur la grâce de Dieu. Il n'y a pas chez lui de confession. Si un jour nous croyons que nous sommes devenus parfaits, mes amis, il est temps vite d'aller confesser. Il est temps vite d'aller voir un frère aîné, une sœur aînée dans la foi et de dire « Vite, 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 arrête-moi, je suis en train de dérailler. S'il te plaît, mets-moi une paire de gifles, mets-moi les deux pieds par terre, réveille-moi parce que là, il y a quelque chose qui ne va plus. » L'humilité. L'humilité. Cette semaine, j'ai eu le privilège d'être à un endroit avec d'autres frères et sœurs. Et nous avions des gens qu'on appelle dans le milieu évangélique des grandes pointures. Et un jour, quand nous étions à table, j'ai vu deux de ces grandes pointures approcher de notre table où il y avait de la place. Et je me suis tourné vers celui qui était à côté de moi. J'ai dit « Ouh là là, il y a les grandes pointures qui approchent. » Alors un des deux s'est penché, il m'a dit « Jean-Claude, il n'y a pas de grandes pointures ici. » Il n'y a que des pécheurs sauvés par grâce. Et il s'est assis à notre table et il a parlé avec nous. Si un jour nous croyons que nous sommes supérieurs à Jésus, que nous sommes devenus des êtres indispensables dans le royaume de Dieu, alors il est temps d'ouvrir les yeux et de dire « Seigneur, change mon cœur. Humilie-moi. » Que je me réjouisse lorsque je vois les gens parler avec les pécheurs. Que je me réjouisse lorsque je vois un pécheur, même celui où je me dis, pourvu qu'il aille dans une autre église, qui s'approche de Dieu. Il refuse finalement la grâce qui lui est offerte. Se joindre à la fête. Le fils aîné se montre rebelle dans son amour. Son père a quitté la salle de festin. Il sort à sa rencontre. Il plaide avec lui. Mais le fils refuse. À de telles personnes, le Seigneur doit dire « Vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie ? Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, venez et plaidons ensemble. » Si on croit qu'on n'a plus notre place dans l'église, si on croit qu'on n'a plus de place parmi ces gens qui sont des petites gens. Alors rapprochons-nous de Dieu et plaidons. Et tout comme le Père ici, notre Seigneur prend le temps de dialoguer avec nous. Le Père a quitté la fête. Pour que la fête soit complète, il veut que son fils aîné rentre. Parce qu'il lui reproche rien. Mes amis, on a du mal à voir cet homme, hein ? Mais plus on examine et plus on a l'impression que c'est nous, non ? Qui nous mettons un peu sur la brèche, qui finalement de temps en temps ne voulons pas participer. Le fils aîné n'est pas attiré vers le cercle béni où la grâce de Dieu se donne libre cours. Il estime son père coupable, il aurait dû lui donner, pense-t-il. À défaut d'un veau gras, au moins un chevreau. Il est impossible de comprendre la grâce en restant sur le terrain de sa justice. Une telle personne croit avoir des droits. Nous sommes dans une société de droit. Et ce droit nous donne le droit de taper sur les autres, de les éliminer de la planète, de faire du bruit alors qu'ils dorment, de les agresser verbalement. Nos devoirs civiques nous font de porter assistance aux autres. Ont été oubliés. Quand Jésus parle de l'Église dans Matthieu 16, il dit dans Matthieu 18, « Prenez soin les uns des autres. Encouragez-vous les uns les autres. Redressez-vous les uns les autres. Aimez-vous, dit-il dans Jean 13, les uns les autres. Le Père lui répond, je n'ai pas à te donner, puisque déjà tout t'appartient. Jusqu'ici, tu t'es toi-même privé de tes privilèges. Tu n'as jamais accepté ces biens que j'avais mis à ta disposition. Dieu met à votre disposition tout ce qui lui appartient. Il suffit d'étendre la main avec foi, de vous approprier tous ces privilèges. Pourquoi mourir d'inanition, dans une profonde misère morale, alors que toutes les richesses de la grâce sont à notre portée? Éphésiens chapitre 2, verset 8. Le fils aîné n'est pas désireux de prendre part à la mélodie et aux danses. Il les entend, la maison de son père est si proche. Ainsi le riche dans le tourment voyait Abraham et Lazare, mais il n'avait pas accès. C'est Luc 16 qui le dit. Les manifestations d'une joie si pure sont incompréhensibles pour un cœur naturel, un cœur de pierre. Le fils aîné se tient volontairement dehors. Il se contente d'appeler un serviteur, « Va voir ce qui se passe là-bas, dans la maison. » Une religiosité de façade va avec un cœur formaliste, un cœur froid. Dans un tel chemin, la vraie joie a disparu. En revanche, chaque vrai chrétien a ressenti les effets de cette musique. Son cœur est rempli de joie chaque fois qu'un pécheur vient à la repentance. Psaume 87, Luc 15. Cette joie est entièrement en contraste avec celle de ce monde, n'est-ce pas? Autour de nous, il n'y a pas de place, il n'y a la place que pour de vains bonheurs qui n'enfantent rien que des regrets et du dégoût. Le fils aîné refuse même de reconnaître parenté avec son frère. Il ne dit plus « mon frère », mais il dit « ton fils ». Vous savez, c'est intéressant pour les parents. Quand les enfants reviennent avec des bonnes notes, quand ils ont fait des choses extraordinaires, « ah, mon fils !»« Ah, ma fille !» Et puis, quand ils font des bêtises, on va voir la mère. « T'as vu ce que ta fille a fait ?» C'est intéressant, hein ? Quand tout va bien, c'est à nous. Quand ça va mal, c'est aux autres. Regardez le frère. Ton fils, pas mon frère. Il ne veut pas s'associer à son frère. Il pense qu'il est tellement différent. Son cœur est froid, il est devenu de pierre. Mais, oh Dieu, je te rends grâce, pour rappeler le publicain, de ce que je ne suis pas comme le reste du monde qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain-là, là. Je jeûne deux fois la semaine, je donne ma dîme de tout ce que je possède. Ah, Seigneur, enfin, moi, je suis juste. Pas lui. Avec beaucoup de mépris, le fils déclare, « Quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. » Le père n'épilogue pas, sur toute l'amertume qui jaillit de son cœur. Et lui dit, ton frère. Il dit pas mon fils, vous avez vu? Il rééquilibre les choses, il dit ton frère était mort et il est revenu à la vie. Le papa est sage, hein? Il n'envenime pas le débat. Que de tendresse à travers ses paroles. Ton fils, dit le frère. Ton frère, dit le père. Mes amis, la communion fraternelle, la fraction du pain, a besoin d'être développée dans notre vie pour que nous reconnaissions nos frères et nos sœurs et pour que peut-être ceux qui sont juste derrière la porte, ceux qui n'ont pas encore tout compris ou peut-être ceux qui se sont mis devant la porte parce qu'ils pensent que le groupe n'apporte plus rien, ont besoin de changer. On comprend pourquoi ce fils aîné refuse d'entrer, de partager. Il faudrait qu'il se reconnaisse dans ce frère, dans ce pécheur. Le fils prodigue était mort et il est revenu à la vie. objet de même miséricorde, nous pouvons nous réjouir ensemble lorsque nous voyons un frère, une sœur rentrer dans la maison. Le père est sorti. Il avait couru devant le fils prodigue en s'humiliant, en relevant sa robe. Il prie maintenant ce fils rebelle d'entrer. Il doit se dire, mais quelle équipe j'ai moi, Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter deux fils pareils? La grâce s'adresse à tous sans distinction. Christ a payé sur la croix le prix de notre rachat. C'est ainsi que le salut a encore été prêché aux Juifs par les apôtres après la crucifixion. La plupart, hélas, ont refusé le message. Ils n'acceptaient pas d'être placés sur le même pied que ces païens, ces gentils, ces rejetés. Ces gens qui n'appartiennent pas à ton peuple. Devant une telle attitude, Paul et Barnabas doivent dire « C'est à vous, premièrement, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, mais puisque vous la rejetez, vous estimant vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les nations. » Et on peut dire « Amen, mes amis. » Parce que s'ils avaient continué de prêcher aux Juifs, nous ne serons pas là ce matin. Mais Dieu a ouvert la porte pour que l'Évangile arrive jusqu'à nous. La justice de l'homme qui n'est qu'égoïsme et péché repousse la grâce. C'est Darby qui a dit ça. Dieu pourtant, dans son amour, envoie encore aujourd'hui ses serviteurs jusqu'au bout de la terre. Il plaide par leurs moyens en faveur de ces pécheurs, orgueilleux par nature. Il les prie d'entrer dans la salle du festin, de se joindre à la fête éternelle, préparée par son amour. Réjouissons-nous. Chaque fois qu'un pécheur revient à la vie, il faut se réjouir, afin d'être en communion avec le cœur de Dieu, qui déborde de joie, verset 32. Il aimerait tant que tous partagent sa joie. Seuls des pécheurs pardonnés rempliront le ciel, mes amis. Ils célébreront pendant l'éternité cette grâce à laquelle ils doivent tout. Laissez votre cœur s'attendrir. Comme le frère du fils prodigue, ne restons pas à la porte. Laissons notre cœur se réchauffer. Nous sommes prêts, mais peut-être loin. Venez, rentrez, entendez-vous la musique ? J'ai pris pour terminer ce dessin de Rembrandt qui exprime voilà ce que le fils prodigue a fait. Il s'est approché de son père. Il lui a dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et le père ne l'a pas rejeté. Il l'a pris dans ses bras. Petit à petit, dans notre société, chrétien ou non chrétien, on devient vite froid. Vite hautain, vite au-dessus, orgueilleux. Dieu nous appelle à la communion avec lui, mais aussi avec les frères et sœurs. Et on a besoin de laisser notre cœur se réchauffer, de laisser nos émotions couler, pour y laisser la place à la grâce de Dieu. Alors j'espère que dans ce message, nous allons comprendre qu'il n'y a pas de la place uniquement pour ceux que nous pensons tellement pécheurs, mais pour ceux aussi qui se pensent justes. Ceux à qui tout est offert, mais qui finalement s'en privent. Approchons-nous du Père. Rentrons dans la salle, écoutons sa musique. Entendons sa voix et ouvrons la porte. Il est prêt à nous recevoir. Seigneur Jésus, tu es ce Seigneur qui n'a pas considéré qui il était pour venir sur la terre. Tu n'as pas hésité, Seigneur, à aller jusqu'à la mort sur la croix. Mort indigne, mort jugée, mais qui n'est pas resté enfermé dans la mort. Qui finalement a été ressuscité par son Père et qui est la démonstration aujourd'hui de la grâce du Père. Alors Seigneur, je voudrais ce matin tout simplement que tu parles à chacun de nos cœurs. Que si tu y trouves une graine d'amertume, une graine d'orgueil, une graine de froideur, tu puisses l'enlever. Parce que tu as dit que tu mettrais dans notre cœur un cœur de chair, un cœur qui se laisse attendrir, un cœur qui se laisse réchauffer, un cœur qui bat pour l'éternité. Et je voudrais juste prier pour notre communauté, Seigneur, afin que nos cultures, nos arrière-plans, nos vies, nos conditions de vie ne mettent aucune barrière entre nous. Devant toi, Seigneur, nous sommes tous égaux, tous pécheurs, mais tous pardonnés. Alors, Père, je voudrais prier ce matin pour tous ceux qui, peut-être, au cours des années, ont laissé durcir leur cœur. Que s'il y a une personne, deux personnes dans cette assemblée qui finalement s'est reconnue dans ce frère, qui a du mal à comprendre ta grâce, quelqu'un qui finit par se priver de ta grâce, quelqu'un qui finit par penser qu'il n'a plus besoin de rien, et bien qu'aujourd'hui, Seigneur, comme dans ce livre des Actes, tu touches son cœur. Et qu'il puisse reprendre communion avec toi, afin que ta joie soit parfaite dans cette église, afin que les murs de la séparation que tu as renversés à Golgotha soient renversés définitivement. Alors si ce matin vous êtes reconnu dans ce frère, si ce matin vous dites « c'est vrai, j'ai laissé la pollution, j'ai laissé l'amertume, j'ai laissé la colère, j'ai laissé la froideur remplir mon cœur. Et ce matin, je veux retrouver cette communion avec mon Père qui m'invite de rentrer dans la salle pour me réjouir. Si c'est votre cas, alors tout simplement, comme je le demande le dimanche, là où vous êtes, vous levez la main et vous dites « Oui, Jean-Claude, j'ai besoin que tu pries pour que mon cœur se réchauffe. » Pour que finalement je revienne dans cette communion pleine avec lui et qu'il soit dans la joie. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui voudrait lever la main? Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle? Quelqu'un qui pense que ce matin il a besoin de cette grâce particulière? Eh bien, Seigneur Jésus, je veux te prier ce matin pour ta parole, afin qu'elle, nous savons qu'elle ne reviendra jamais sans effet, qu'elle pénètre nos cœurs, qu'elle nous donne de la joie, que comme ces disciples qui ont vu partir le Seigneur Jésus, nous puissions repartir en adorant, en louant et en persévérant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.